Bonjour et donc bienvenue dans ces salons Albert Mola. Nous avons le bonheur de recevoir ce soir Jean-François Parot qui vient nous présenter son dernier roman L'enquête russe, publié chez aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors L'enquête russe est le 10e opus des aventures de Nicolas Le Floch, commissaire de police au Châtelet dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et qui est chargé par son supérieur, un lieutenant général de police, donc d'investiguer, de résoudre des enquêtes criminelles, des énigmes et beaucoup d'affaires secrètes et réservées en lien avec le roi. Alors, l'aventure débute en février 1761 sous le règne de Louis XV, avec l'énigme des blancs manteaux, pour en arriver à notre sujet de ce soir, qui sera donc l'enquête russe quelques 20 ans plus tard. Alors au départ, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-François Parot, ce que j'aimerais, bonsoir d'abord Jean-François Parot, j'aimerais que vous puissiez vous présenter assez rapidement à notre auditoire, en nous situant un peu votre cursus universitaire et puis votre parcours professionnel, qui, à mon avis, sont en rapport avec la genèse et le suivi de votre œuvre, et tout particulièrement avec le livre qui va nous intéresser ce soir.
Eh bien, je suis essentiellement littéraire. J'ai fait mes études à Paris au lycée Michelet, puis au lycée Henri IV, puis à la Sorbonne. Après avoir obtenu une licence et une maîtrise, je me suis tourné vers d'autres sciences humaines et je suis devenu spécialiste de la momification égyptienne, des techniques de momification égyptienne et des mythes de fondation des sociétés océaniennes. Les études sur la momification égyptienne et donc aussi des études d'anthropologie humaine m'ont conduit à avoir sur le corps humain quelques notions et en particulier à assister à l'époque à des autopsies, ce qui sert tout de même quand on écrit des romans policiers. Après avoir fait mes études, j'ai enseigné quelque temps et puis je suis parti faire mon service national à Saint-Louis du Sénégal, où au cours de l'été, j'étais dans un lycée de jeunes filles, mais au cours de l'été, on ne travaillait pas, j'avais été mis au consulat général de France à Saint-Louis. Et donc c'est le consul général qui me dit « vous devriez passer les concours des affaires étrangères ». Donc c'est à ce moment-là qu'a germé l'idée d'une vocation diplomatique, mais je suis rentré en France, j'ai passé l'agrégation, et j'ai ensuite préparé les concours d'administrateur de l'Assemblée nationale et administrateur du Sénat et celui du Quai d'Orsay. Il se trouve que j'ai été reçu à celui du Quai d'Orsay et par conséquent, je suis parti immédiatement en poste au Zaïre à l'époque. Et donc, pendant 40 ans, j'ai fait 9 postes. J'ai fait un peu un canard sauvage parce que j'ai très peu servi en France, puisque sur ces 40 ans, j'ai dû servir 8 années en France et les autres dans des postes, dont certains assez difficiles, puisque j'ai servi successivement au Zaïre, à Qatar, un moment où Qatar était moins connu qu'il ne l'est aujourd'hui, à Khartoum, au Soudan, à Djibouti, puis j'ai servi au ministère de l'Industrie comme conseiller diplomatique, puis je suis parti comme consul général à Saïgon, au Vietnam, puis comme premier conseiller au Burkina Faso, puis comme sous-directeur du personnel, puis comme consul général à Athènes, puis comme premier conseiller à Sofia, puis comme ministre conseiller à Tunis, puis comme directeur adjoint de la coopération militaire et enfin comme ambassadeur en Guinée-Bissau. Voilà. Voilà donc ça veut dire 40 années de travail diplomatique, 18 années en Afrique. Je me suis fait tirer dessus 4 ou 5 fois, mais c'est normal dans la carrière maintenant, ça fait partie des habitudes. Et puis donc, quand j'avais oublié la Bulgarie, donc j'ai été aussi premier conseiller en Bulgarie, et c'est en Bulgarie que, compte tenu des De la tristesse des fins de semaine, parce qu'il y a beaucoup de glace, beaucoup de neige, l'hiver, je me suis mis à écrire, pour mon plaisir personnel, ces aventures de Nicolas Le Floch, mais sans volonté de les faire paraître, pour mon plaisir personnel, celui de ma famille. C'est comme ça que ça a commencé.
Heureuse idée. Donc, à l'instar de certains personnages de vos romans, je devrais vous appeler Excellence ou Votre Excellence. De fait, mais je ne le ferai point.
Non, parce que les Français n'appellent pas leur ambassadeur Excellence, c'est les étrangers qui les appellent Excellence. Bon. Et on appelle Excellence un ambassadeur de France que qu'une administration française lui écrit, et donc là, on s'adresse à son Excellence ambassadeur de France.
Voilà. Ça, c'est Jean-François Perrault.
Mais une fois qu'on est un retraité des postes, eh bien, Excellence n'a plus lieu d'être, et l'ambassadeur non plus.
Nous prenons acte. Donc, on va voir comment est né dans votre imagination donc le personnage de Nicolas Le Floch. Et en quelques mots, si vous pouvez déjà nous expliquer qui est ce personnage principal de vos romans.
Bon, il est né, je ne sais pas trop comment. Il est né que je voulais faire un personnage qui soit comme dans le cadre des romans de formation du XVIIIe siècle. Alors c'est un enfant trouvé, c'est un breton, parce que j'habite à côté de Guérande, donc on le découvre sur le gisant de la famille de Carnet, dans la crypte de la collégiale Saint-Aubin à Guérande. Et puis comme on le trouve dans la collégiale, eh bien on le remet au chanoine. Le chanoine s'appelle Le Floch. Le nom de Le Floch, je l'avais trouvé parce que c'était le nom le plus courant en Bretagne. Quand vous regardez dans les annuaires, vous apercevez que Le Floch est le nom le plus courant. Ça signifie d'ailleurs l'écuyer en breton. Et donc, vous savez, dès que vous avez commencé à donner un nom à un personnage, il commence à s'agiter comme un ludion et il devient vivant. Alors là, il n'y a plus qu'à suivre. Il n'y a plus qu'à le suivre. Et les choses s'agrègent peu à peu, d'une manière totalement involontaire.
D'accord. Donc, c'est un personnage qui semble à l'aise un petit peu dans tous les milieux, peut-être de par son éducation.
Alors, il est évidemment l'enfant adoptif d'un chanoine assez conservateur. Les conservateurs, par exemple, pour problème de l'hygiène, parce qu'ils considèrent que être propre, c'est avoir des habits propres, et que l'eau est quasiment un dangereux péché. L'eau, c'est dangereux, ça conduit à toutes sortes d'horreurs. Mais Nicolas Le Floch est aussi sous l'influence de son parrain, le marquis de Ranreuil, qui s'avéra être son père naturel et qui donc lui donne de bons conseils. Alors le marquis de Ranreuil est un homme des Lumières, c'était un brillant soldat, et il a constaté quand on se lavait dans les camps, on était beaucoup moins malade que lorsqu'on ne se lavait pas. Donc il lui inculque ce qui est effectivement les débuts de l'hygiène au XVIIIe siècle. Et puis, enfin, c'est quelqu'un qui va jouer avec les galopins de Brière et des bords de la Vilaine, qui va revenir plein de plaies et de bosses de ses bagarres avec les petits paysans du coin. Et puis ensuite va recevoir la très bonne éducation, le très bon enseignement, qui était celui des collèges de jésuites, le collège de jésuites de Vannes, avant que ne soient expulsés du royaume les jésuites, à tort d'ailleurs, puisque, comme on le disait, ils sont allés travailler pour le roi de Prusse. Et puis ensuite, il va être placé chez un notaire, comme clerc de notaire, et va connaître un peu comment s'organise la vie des familles, les patrimoines, et donc ça sera important d'ailleurs plus tard dans les enquêtes qu'il mènera, cette connaissance qu'il peut avoir du droit notarial, du droit des familles. Donc beaucoup, beaucoup d'influence sur ce personnage pour son enfance et son adolescence, y compris d'ailleurs le fait que le marquis de Ranreuil le fait recevoir par la noblesse de la province, que compte tenu du prestige du marquis de Ranreuil, on accepte tout à fait la présence de ce garçon qui va se frotter aussi par conséquent à l'aristocratie locale.
D'accord. Donc ensuite, il va y avoir une sorte de voyage initiatique. Nicolas Flock va débuter dans la vie. Il va faire ses humanités sur Paris. Et là, il va découvrir beaucoup de choses. Il va découvrir un métier. Il va découvrir la cour. Il va découvrir le roi.
Oui, il va partir à Paris, un peu comme D'Artagnan monte à Paris avec une recommandation pour Monsieur de Tréville. Alors là, il part avec une recommandation pour le lieutenant général de police, Gabriel de Sartines, à la suite d'une scène violente qui l'oppose à son père adoptif, enfin à son parrain, qui veut évidemment l'éloigner de sa fille Isabelle. Les deux jeunes gens sont tombés amoureux d'évidence, et comme ils sont au fond frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs, le marquis de Ranreuil trouve normal d'éloigner Nicolas. Donc il part à Paris, où il va être mis dans un apprentissage, d'ailleurs assez rude, chez un commissaire, le commissaire Lardin. Et puis, il va être affronté le regard un peu persifleur que l'on porte sur un petit Breton qui arrive qui arrive à Paris. Et M. de Sartines, qui est assez moqueur, lors de leur premier entretien, va regarder sa tenue, va immédiatement l'envoyer chez son tailleur, Maître Vachon, pour le faire habiller différemment, et va lui dire... Après avoir fait un essai d'écriture, en ricanant, il va dire « Voilà une belle écriture, un peu bâtarde ». Mais Nicolas ne se rendra pas compte de l'allusion qui, à ce moment-là, est faite de ses origines.
Alors, il va recevoir une formation qui est dans le métier, qui est assez forte, puisque M. de Sartines, ce n'est pas n'importe qui. C'est donc à l'époque le lieutenant général de police sous Louis XV. Et c'est un personnage qui est rusé, qui est habitué des situations délicates, qui a des entretiens avec le roi, et qui a un rôle à cette époque, lieutenant général de police, c'est un petit peu le rôle d'un préfet de police peut-être à l'heure actuelle.
Oui, même plus davantage, parce qu'au fond, la police à l'époque, c'est l'ensemble de l'administration de la cité. Mais ça va plus loin parce que l'influence du lieutenant général de police s'étend sur l'ensemble du royaume. En fait, il y a un ministre de la maison du roi qui est son supérieur. Mais au fond, le lieutenant général de police se rend compte directement au roi. Et comme vous le disiez, il a accès à Louis XV, puis à Louis XVI, en général le dimanche soir, où il vient apporter... À Louis XV en particulier, tous les résumés de ce que le cabinet noir, c'est-à-dire le service chargé d'ouvrir le courrier, a récolté. Louis XV, qui s'ennuyait souvent, aimait bien avoir le compte-rendu des ragots, des intrigues, des liaisons, des débauches de la ville et de la cour. Et donc c'est une grande influence de pouvoir voir le roi très régulièrement. Donc ce lieutenant général de police qui s'occupe aussi de beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire du ravitaillement de la ville, de l'hygiène, de l'alignement des maisons, enfin de tout ce qui touche au fond l'administration de la cité. Donc c'est effectivement un personnage important et un personnage qui est ce qu'on appellerait aujourd'hui un technocrate, parce qu'au fond... Même si M. de Sartines, dans les romans, semble plus vieux, il n'est pas tellement plus vieux que Nicolas, mais cherche à se montrer plus âgé pour se donner plus d'autorité. Mais avant d'avoir été lieutenant général de police, il a été lieutenant criminel. C'est-à-dire que, très jeune, il a eu des fonctions extrêmement importantes dans l'administration.
Et donc, Nicolas Le Floch a une charge, un commissaire de police, c'est un petit peu...
Oui, alors à la suite de services signalés rendus au roi et à la marquise de Pompadour, il monte pour la première fois à Versailles, il est présenté au roi, et alors il va séduire Louis XV par sa capacité à raconter les choses d'une manière agréable. C'est un conteur, et par conséquent on l'écoute avec plaisir, et ce plaisir fait que le roi aimera toujours entendre celui qu'il nommera le petit Ranreuil. Alors il va lui donner une charge de commissaire de police au Châtelet, et aussi lui dire, lui annoncer, lui dévoiler qu'il est au fond le marquis de Ranreuil, puisque son père étant mort, le marquis de Ranreuil étant mort, eh bien, le roi qui peut décider des distinctions ou de l'organisation des familles, le roi décide que Nicolas Le Floch devient marquis de Ranreuil. Au début, d'ailleurs, Nicolas va refuser cette dénomination, cet honneur, mais au fond, peu à peu, au cours des années qui vont s'écouler, il va finir par accepter d'être le marquis de Ranreuil, parce qu'à la ville, on l'appelle Nicolas Le Floch, mais à la cour, on l'appelle le petit Ranreuil, et par conséquent, il est bien obligé de recevoir le poids de ce nom dont il est, au fond, assez fier. Bon. Et puis, comme il va avoir un fils, il sera d'autant plus sensible au fait d'être un Ranreuil que maintenant, le nom peut être transmis au fils.
Absolument. Alors, il est aussi fidèle en amitié. C'est un homme qui est seul à certains moments, indépendant, mais qui est fidèle en amitié. Il a autour de lui des personnages qu'on va retrouver au fil des romans et auxquels on s'attache également. Je pense à Pierre Bourdeau notamment, son adjoint, inspecteur, mais aussi à pas mal d'autres personnages qui sont autour de lui.
Oui, les personnages, je l'ai souvent dit, sans doute parce que je suis un fils et un petit-fils du cinéma. Mon grand-père était le monteur d'Abel Gance et de Dreyer, et ma mère était la chef-monteuse dans Les Visiteurs du Soir, de Carnet, pour Les Visiteurs du Soir et Les Enfants du Paradis. Et par conséquent, il était très marqué tout de même par le cinéma d'entre-deux-guerres, où il y avait des seconds rôles qui étaient extraordinairement présents, de très bons acteurs, Roquevert, Carrette. Bon. Et je crois qu'un personnage principal est d'autant plus vivant et incarné que les personnages qui l'entourent le sont également. Plus les personnages qui sont autour de lui sont visibles, ont leur manière de parler, ont leur habitude, plus le personnage principal, en contrepartie, reçoit une part d'humanité. Alors il y a ceux qu'on retrouvera dans tous les romans, qui sont Monsieur de Noblecourt, ancien magistrat retiré, chez qui loge Nicolas Le Floch, Pierre Bourdeau, inspecteur, qui est donc son fidèle bras droit, le docteur Sémagus, chirurgien de marine. Alors il faut que vous confiez un secret qui n'en est plus, parce que comme je le dis assez souvent, ça finit par se répandre. Sémagus, souvent les lecteurs se demandent d'où vient ce nom étrange. Alors à Bordeaux, il faut que je vous le dise, parce que Sémagus signifie, ce sont les initiales d'une société auquel j'appartiens, qui est la Société d'encouragement mutuel à la consommation des grands vins et spiritueux. Donc le docteur Sémagus, voilà, c'est un clin d'œil pour des amis que j'aime beaucoup, qui sont d'ailleurs dans la région. Et puis, on parle souvent aussi du président de Sojac, qui est un ami qui a une mauvaise foi invraisemblable. Alors, il habite à Sojac, dans l'Aveyron, donc on parle du président de Sojac. Là aussi, c'est un clin d'œil pour un ami. Alors, il y a Sémagus, et puis, il y a peu à peu, il y a des gens qui vont s'accrocher à ce noyau. Il y a évidemment Marion et Poitevin, qui sont les serviteurs de Monsieur de Noblecourt. Il y a Catherine Gauss, ancienne cantinière du roi et cuisinière de Nicolas. Il y a peu à peu des gens qui vont s'accrocher à ce noyau principal.
Oui, il y a aussi ces amours sentimentales, ces proches, on va en parler peut-être également tout à l'heure. Il y a une constante dans vos livres qui est tout à fait intéressante, c'est qu'on peut les lire séparément, bien qu'il y ait une chronologie et une évolution dans les histoires, d'une part. D'autre part, on retrouve toujours une couverture avec des toiles de portraitistes ou de peintres d'époque. Là, on a Karl, donc Charles-André Vanlo.
Oui, c'est Madame Clairon dans le rôle de Médée. Et c'est curieux parce que c'est un tableau qui a été fait pour un ambassadeur de Russie.
D'accord, donc nous sommes dans le temps, comme toujours. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a donc, en début d'ouvrage, donc, une liste de personnages. Ça, c'est intéressant. Il y a toujours un prologue. Et il y a en fin de récit, ça, c'est tout à fait intéressant aussi, donc des notes explicatives par chapitre et qui nous apprennent beaucoup de choses. Donc,
c'est-à-dire que je ne veux pas être trop pédant vis-à-vis de mes lecteurs et qu'il y a souvent des expressions et des noms qui sont un peu mystérieux. Alors, moi, je préférerais que les notes soient en bas des pages, mais les éditeurs n'aiment pas ça. Donc, on est obligé de les mettre à la fin. Alors, on essaye d'en faire le moins possible, mais on va sans doute dans le site qui est le site Nicolas Le Floch, où il y a beaucoup de choses, et en particulier les plans pour chaque roman, la circulation de Nicolas Le Floch dans Paris, on mettra sans doute, et je crois qu'il existe déjà, c'est pas moi qui m'en occupe, mais c'est une dame qui a fait une thèse de 1000 pages sur mes romans, et donc on met la liste des expressions et des noms qui sont un peu difficiles aujourd'hui.
L'enquête russe, donc on est en 1782, est-ce que vous pouvez nous parler du contexte historique au moment où démarre le livre?
Alors, le contexte, c'est la fin de la guerre d'indépendance des États-Unis. En dépit de revers maritimes, la France va être victorieuse et donc va aider la naissance des États-Unis d'Amérique, au prix d'ailleurs d'une catastrophe financière et d'un déficit effroyable qui va conduire d'ailleurs à la Révolution française. Alors nous sommes, la guerre s'achèvera en 83, donc nous sommes en 82, mais on commence à parler de la paix, et donc la France s'inquiète des manigances des puissances, et en particulier des manigances de la Russie, qui voudraient intervenir dans les traités qui vont être négociés. Donc la visite du tsarévitch Paul, le fils de Catherine II, à Paris, va impliquer que des efforts pour essayer de séduire ce personnage, parce qu'on se dit qu'il succédera un jour à Catherine et qu'au fond, ce serait une bonne chose d'avoir un élément favorable aux intérêts français à Pétersbourg. Alors évidemment, le tsarévitch Paul, c'est un personnage un peu difficile et compliqué, et même assez déséquilibré, parce qu'il en veut beaucoup à sa mère, la tsarine Catherine, d'avoir tué son père, le tsar Pierre, mais il n'est même pas assuré d'être le fils du tsar Pierre. Et quant à Catherine, elle n'est pas elle-même assurée que son fils est bien le fils de Pierre. Donc tout ça fait qu'elle se méfie beaucoup de son fils, que lui se méfie beaucoup de sa mère, et qu'elle-même, par moments, a le sentiment qu'il faudrait mieux que son fils disparaisse plutôt que d'être son successeur. Donc voilà le contexte russe. Et donc, le tsarévitch Paul et sa femme, sous le nom de comte et comtesse du Nord, viennent à Paris. Et donc, bien que ce soit incognito, on organise évidemment beaucoup de festivités pour leur passage. Et c'est tout au cours de ces festivités qui seront en arrière-plan de l'intrigue que vont se dérouler des crimes, à la fois dans Paris et à l'intérieur de la résidence de l'ambassadeur de Russie, Bariatinsky. Ce sont ces crimes qui vont amener Nicolas Le Floch à intervenir, non seulement pour ces crimes, mais aussi pour une tentative à la limite du supportable, et pour laquelle d'ailleurs il va s'indigner, que Sartine a mise en place avec Vergène pour essayer d'obtenir, alors je ne vous dévoile pas la chose, mais pour essayer d'obtenir la confiance du tsarévitch Paul.
Oui, alors c'est même une machination, un sacré coup de tordu ourdi par Monsieur Sartine.
Oui, on peut dire un peu ce que c'est. La police française au XVIIIe siècle était réputée la meilleure de l'Europe, ce qui était sans doute vrai, était très bien organisée. Car la crainte de l'Ancien Régime, c'était le désordre. Donc il fallait vraiment contrôler la population le mieux possible. D'ailleurs, tous les potentats de l'époque, que ce soit Joseph II, Marie-Thérèse ou Catherine, ont demandé des rapports à Paris pour savoir comment était organisée la police française. Or, la police française, elle était appuyée sur le contrôle des maisons galantes, de la prostitution, du jeu, et surtout par le développement de ce qu'on appelait les mouchards, les mouches, qui étaient au fond des espions, qui étaient répandus dans toute la société, pas simplement des pauvres types dans la rue qui surveillaient ce qui se passait. Il y avait des mouches, qui était d'ailleurs rétribué jusque dans l'aristocratie et même dans tous les milieux de la société. D'ailleurs, Sartine avait coutume de dire, quand il y a trois personnes qui parlent dans la rue à Paris, il y en a deux qui sont à moi. Bon. Et puis, il y avait aussi un vieux système qui consistait, dès qu'il y avait une visite officielle, on demandait à quelques malfaisants d'aller s'emparer, pickpocket de l'époque, d'aller s'emparer de la montre du visiteur. Alors évidemment, scandale épouvantable, le personnage en question fulminé, on m'a volé ma montre, ses ambassadeurs venaient protester, et le lendemain, le lieutenant général de police venait rapporter la montre, preuve de l'excellence de la police française. Bon, donc c'est un peu ça qu'envisage de faire Sartine, pour que le bon Nicolas soit introduit de la meilleure manière auprès du Tsarévitch. Mais ça va dérailler.
Oui. Oui, rien ne va se passer comme prévu aux grandes dames de M. Sartine, de M. de Vergennes aussi, donc, qui est le ministre des Affaires étrangères de
Louis XVI,
de Louis XVI et qui va se faire beaucoup de soucis pour la suite des événements. Alors, puisque vous avez parlé de ces mouches, de ces indiques, je pense qu'on pourrait lire un passage qui concerne notamment Rabouine et Tirepot, qui sont donc des mouches habituelles et attitrées, utilisées par notre ami Nicolas Le Floch, si vous permettez. De bonne heure, Nicolas se rendit au Châtelet, appelé par un message de Bourdeaux. Il y trouva Rabouine et Grémillon, j'ai du mal à lire, accompagnés d'une vieille connaissance, Tirepot. La troupe se réunit dans le bureau de permanence. La parole fut d'abord donnée au sergent Duguay. « Monsieur, nous avons un indice concernant la princesse de Kesseruen. Aurait-elle reparu, signalée par notre vigie? Le maître plumassier aurait-il tenu sa parole? Point. Nos mouches animées par Tirepot, le vieil homme salua, ont fait leur besogne. Espérons que la piste trouvée soit la bonne. » Nicolas considéra Tirepot avec amitié. « Alors Jean, comment vas-tu mon pays? Je me fais trop vieux. Parfois j'aurais bien tentation de retourner à Pontivy. » « Allons, tu nous es trop utile et tu sais pouvoir compter sur moi. Ça, je le sais, Gast. Alors, qu'as-tu découvert? Rien n'arrive dans cette ville qu'on sache à la pointe. J'avions prévenu mes marmousets qui se sont répandus dans Paris comme mouches sur la charogne. C'est le cas de le dire, dit Bourdeau-Hillard. Ils ont musé, reniflé, causé, interrogé, observé. Résultat, nous avons appris qu'une dame étrangère s'adonnait... donner bien du tracas pour passer inaperçu. C'est une fine matoise, car elle a réussi à échapper à la poursuite, soit que mes gens l'ont été repérés, soit qu'elle soit méfiante de nature. Tout assez, on a son adresse et le nom de la dame qui l'héberge, je ne dirais pas qui c'est, une étrange russe ou polonaise. C'est ce qui a attiré le soupçon et remué nos méningeoires. Donc c'est ça.
Oui, alors il faut dire, il y a ce Tirepot qui est un personnage étonnant, parce que Tirepot était un personnage qui a existé, enfin la fonction a existé, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui portait sur les épaules, comme ça, en équilibre, deux seaux hygiéniques, et puis qui était couvert d'une grande pèlerine en toile cirée, et il se promenait dans Paris où il n'y avait pas de latrine, et où chacun se plaignait d'ailleurs que tout était très sale. Et donc il se promenait en criant « Chacun sait ce qu'il a à faire, chacun sait ce qu'il a à faire !» Alors les gens arrivaient, ils posaient les seaux hygiénique, les gens s'asseyaient, on rabattait la toile cirée et chacun faisait ce qu'il avait à faire. Et évidemment, faisant ce qu'il avait à faire, les gens parlaient avec le porteur de l'eau hygiénique, et c'était un moyen pour la police de recueillir beaucoup d'informations.
Alors, c'est chalet de nécessité, mais il y a aussi, dans l'ordre des petits métiers, des valets de garde-robe et un mystérieux frotteur qui, à un moment donné, pénètre dans l'hôtel de Lévis, l'ambassade russe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un frotteur, par exemple, ou ce valet de garde-robe?
Le matin, dans beaucoup d'hôtels particuliers, à Versailles en particulier, eh bien, on nettoyait les parquets, on frottait les parquets. Je ne sais pas si... moi, j'ai un certain âge, déjà. Moi, enfant, ma grand-mère me faisait passer la paille de fer. Ouais. Et puis ensuite, faisait mettre de la cire. Et ensuite, il y avait une espèce de truc odieux qui était avec une courroie. On passait le pied et puis on frottait. Puis surtout dans le sens du parquet, hein, pour faire briller le parquet. C'était ça, un frotteur, en fait. Donc le frotteur était quelqu'un qui... travaillaient souvent le matin à Versailles, par exemple, les frotteurs étaient là la matinée.
D'accord. Valet de garde-robe aussi, comme.
Un valet de garde-robe, c'est celui qui vide les seaux.
D'accord.
Et d'ailleurs, lorsque j'étais à Saint-Louis du Sénégal, vieille ville française depuis Henri IV, il y avait des Sénégalais qui le matin allaient de maison en maison pour recueillir les seaux hygiéniques qu'elles portaient en équilibre sur leur tête. Et ces dames avaient un nom extraordinairement 18e, on les appelait les intendantes merdières.
C'est très joli. Donc, on en revient à notre enquête. Ce que je trouve assez intéressant et vraiment prenant, c'est ces techniques d'enquête qui sont très intéressantes et qui sont toujours d'actualité. C'est-à-dire que dans l'enquête russe, on voit, donc, outre le recours aux indices et aux traditionnelles surveillances et filatures, on voit à un moment donné donc, le signalement d'un détenu, enfin, d'un prisonnier du Châtelet, qui est apparemment un signalement, vous dites, de véridique, d'époque, et qui ressemble étrangement au signalement d'identité judiciaire qu'on a à l'heure actuelle. Donc ça, c'est assez intéressant. Les scènes de crime, alors il y a plusieurs scènes de crime avec des reconstitutions, comme on le ferait maintenant dans nos méthodes modernes. Il y a également donc des autopsies, ça, on en a parlé avec nos deux spécialistes, parce qu'on a parlé du premier, le docteur Semagus, mais il y a également donc notre ami le bourreau Samson, qui est un spécialiste aussi de ce genre d'exercice. Il y a un recours aux experts, ça aussi c'est assez intéressant, des experts un peu dans toutes les branches. Ici, on parlera de peut-être de l'univers des bijoux, des joailliers, par exemple, mais ça peut être d'autres experts. Le recours à des traducteurs, à des interprètes, donc ça aussi, c'est M. Radeau, notamment, qui est bien utile dans les enquêtes. Les perquisitions et les saisies. Des interrogatoires qui sont avec même quelques pressions psychologiques. Par exemple, cette espèce de chantage sur les changements de prison. On peut avoir un régime carcéral plus ou moins aménagé. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots là sur ça?
Oui, on pouvait, en particulier au Grand Châtelet, être mis dans des fosses assez épouvantables, remplies de vermine et même, dit-on, de reptiles, ou alors être logé dans des cellules plus confortables, ce qui s'appelait être logé à la pistole, parce qu'on payait à ce moment-là le greffier pour le geôlier, pour que des repas soient, par exemple, apportés de l'extérieur.
D'accord. Il y a aussi donc une étude de profilage hein, sur les serial killers, on dirait maintenant à notre époque. Il y a des crimes en série. Vraisemblablement, nos spécialistes des autopsies en déduisent que certains homicides semblent être opérés par suivant les mêmes méthodes. Donc il y a une réflexion là-dessus. Il y a aussi toute une analyse sur les contrôles des établissements, les tripots, les maisons de jeu, bien sûr, les maisons closes. Et on va aller chez la Gambue, chez la Paulée. Alors je sais que la Paulée, c'est quand même un personnage qui est intéressant.
Ah oui, la Paulée qui est... agit dans mes romans depuis le début est un personnage que j'aime bien, parce que j'adore faire parler la Paulée, qui a un langage absolument prodigieux d'invention comique et de transformation d'ailleurs des termes et des expressions. Et la Paulée est le type même de ces mères maquerelles du XVIIIe siècle qui étaient la base solide du renseignement policier, il faut bien dire. Alors, en ce qui concerne la Paulée, c'est une femme qui n'est pas complètement condamnable. Et à un moment, Nicolas lui baise la main, si je me souviens bien, et lui dit elle méritait bien qu'on lui baise la main tout de même. Parce que c'est vrai qu'elle a ses côtés, les côtés de sa profession, mais elle a aussi des côtés de bon cœur et de secret, parce qu'elle sait très bien quelle est l'origine du fils de Nicolas, et elle pourrait à cet égard user de cette connaissance mal à propos, et elle reste, elle est toujours restée silencieuse sur ce secret qu'elle détient et qu'elle garde.
Est-ce que vous pouvez me lire un petit passage que j'adore de notre Paulée?
Alors, lequel?
Celui-là, Simon. Oui. Puis ça donne une petite idée, puis alors il y a...
« Mon ami Nicolas et son charmant inspecteur, me viens-tu chasser de ma maison? Je te préviens. Allons, que nous chantez-vous là? Vous chassez? Et pour quelle raison nous ririons-nous à votre égard d'aussi méchantes pensées? Tes belles paroles ne me mettront pas au terme de te croire. Je suis trop accoutumé à tes astuces, ma chère Paulée. Point de suavité! Je la connais. Me crois-tu en passe de me faire gober tes douceurs? On a beau me proposer des monceaux d'or, je n'abandonnerai pas la place. Ah, semble non. Point de raison d'abandonner la lamproie pour l'omble. Voici la marée, dit Bourdeau pouffant. Vous voulez sans doute dire la proie pour l'ombre. Ah, te v'là bien, je te retrouve. Toujours à correctionner mon dire. Je m'entends bien, moi. Allons, point d'aigreur. Pourquoi cette crainte de vous voir chasser? Curieuse hantise. C'est bon, continue à faire l'innocent et la chatte-mite, tu me plais. Sais-tu bien seulement depuis quand je suis en place?
Merci. On sent que vous aimez vos personnages et que vous adorez les faire parler avec leur propre jargon. Plus généralement, donc, vous jouez avec tous les registres de la langue du 18e que vous essayez d'adapter, la langue du petit peuple.
Oui, alors qu'au 18e, d'ailleurs, il y a des mélanges parce que. Après la mort de Louis XIV, il y a eu la période de la Régence. Et la période de la Régence, la jeunesse s'est mise à parler d'une manière comme parlait le peuple. Alors, il en est resté quelque chose, parce que sous Louis XV et sous Louis XVI, des gens comme la duchesse de Richelieu, comme le duc de Richelieu ou la comtesse de Maurepas, avaient gardé par moments l'ancien langage leur jeunesse et se mettaient à parler comme les arrangères de la halle. Mmh. C'était extrêmement curieux. Donc il y a des mélanges de discours.
Et cette reconstitution de langue d'époque, c'est difficile à mettre en œuvre,
Non, c'est une question d'imprégnation, de lectures multiples de la période. Et puis, ça fait 50 ans que je lis des livres sur le 18e siècle ou du 18e siècle. Alors, je les lis la plume à la main. Et donc, chaque fois que je trouve une expression qui est amusante ou un mot qui est plaisant, je le note. Alors, j'ai des piles de papier dans lesquelles je plonge quand je fais parler quelqu'un comme la Paulée, par exemple.
Absolument.
Et puis, j'en invente aussi un petit peu.
Alors, j'avais justement, je ne veux pas manquer de relever des expressions savoureuses. Alors, en commençant par ma préférée, parce que c'est le tant de gens s'homicident, homicidés. Alors, ça, c'est un terme qui parle de lui-même.
Oui, mais enfin, j'ai constaté que dans la série qui est tirée de mes romans, on met du homicidé à toutes les sauces, alors qu'en fait, on ne l'utilisait pas aussi fréquemment, et qu'on l'utilisait souvent pour parler du suicide. On parlait de quelqu'un qui s'était homicidé, s'homicidé. Vous savez que le suicide était condamné par l'Église, bien sûr, mais condamné aussi par la justice du roi, et que jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, le corps du suicidé devait être traîné sur une clé, sur le sol, et enterré dans des conditions tout à fait particulières. Alors ça, les idées avançant, les lumières intervenant, eh bien, on a peu à peu abandonné ces pratiques, mais le suicide était un acte grave.
Comme autre expression que j'ai relevée, la tsarine furibonda de terribles imprécations. Cesse de jouer à clignemusette avec nous, sinon il t'en cuira. Cesse de palinoder. Ça, c'est le commissaire et l'inspecteur qui interroge un détenu. Nous l'avons bellement hameçonné, le bougre. Alors là, c'est Bourdeau qui est très fier hein, quand il a accroché un rabatteur de jeu là, qui essaye de l'amener sur les tripots. Et bon, il rentre dans le jeu. Donc, c'est des expressions qui sont savoureuses. Enguenillant son propos de quelques anecdotes. Alors ça, c'est Nicolas qui admire un petit peu le langage de Vergennes et la façon dont il s'exprime. Voilà. En voilà quelques-unes, toujours. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Pour en revenir donc à votre cœur de métier, il se passe, donc c'est carrément une histoire d'espionnage qui est développée dans ce dernier roman. Et puisqu'on travaille autour d'une ambassade et dans une ambassade, et que Nicolas Le Floch donc, a été amené à pénétrer dans les lieux, à se faire accepter à l'intérieur et d'investiguer à l'intérieur, ce qui n'est pas évident. Et là, il y a tous les pièges, donc tout ce qui concerne la protection d'une ambassade, la protection du renseignement, la protection des lieux, la protection des correspondances, tout un aspect sur le chiffrage. Alors là, j'imagine que votre expérience professionnelle vous a servi pour développer ces...
Oui, pour les rituels diplomatiques m'a servi, mais en ce qui concerne les problèmes de secret au XVIIIe siècle, c'est plutôt les archives du Quai d'Orsay qui m'ont servi, parce que nous avons évidemment toutes les correspondances et les correspondances chiffrées de l'époque, donc on voit comment ça se présentait. On a même des protestations d'ailleurs de M. de Choiseul qui trouve que, compte tenu de l'état des finances publiques à l'époque, on ferait mieux de ne pas envoyer des courriers chargés des papiers diplomatiques, de ce qu'on appelle la valise aujourd'hui, parce qu'au fond, la plupart du temps, ils sont traversés par l'adversaire, et donc ça coûte cher et ça ne sert à rien de les protéger.
Vous avez un extrait là qui concerne donc une confrontation entre Vergennes, donc le ministre des Affaires étrangères, et l'ambassadeur russe, le prince Baryatinsky. L'ambassadeur parut d'évidence fort courroucé. Qu'en était-il au vrai, se demanda Nicolas, tant il est commun de constater que la figure d'un diplomate n'épouse pas toujours le débat intérieur qui l'agite. Il salua sèchement, il lui fut répondu par des inclinations de tête. Alors ça, est-ce que c'est une situation que vous avez vécue, forcément ?
Les diplomates ne mentent pas, par définition. Parce que si vous commencez à mentir, eh bien, vous perdez toute crédibilité auprès de vos collègues. Ce qui ne signifie, ça signifie pas qu'on ne dit pas toujours, en tout. On peut conserver les choses pour soi, mais il ne faut pas mentir. Alors, il y a toujours des situations ou des conversations où les propos sont à fleur et mouchetés.
Là, il avale des couleurs, il a du mal, le pauvre prince.
Mais vous savez ce qu'on disait du prince de Talleyrand, on disait, vous lui auriez foutu un coup de pied au cul que son visage n'aurait pas bougé.
Alors, l'autre héros de vos livres est incontestablement le Paris du XVIIIe siècle, dans lequel vous aimez nous promener et faire évoluer vos personnages dans des lieux sordides, des nids de criminalité, mais également au travers de monuments du Paris de l'époque, avec une topographie précise. Alors, quelles sont vos sources comment arrivez-vous à...
Alors, les sources... D'abord, on voit bien que Paris, à l'époque, est quelque chose de plus restreint que le Paris d'aujourd'hui. Par conséquent, je pensais l'autre jour qu'au fond, une enquête policière, c'est souvent une série de déplacements. Et d'ailleurs, regarder un film policier ou une série policière contemporaine, vous les voyez toujours en voiture aller d'un point à un autre. Ça n'a pas beaucoup changé. Il faut aller d'un point à un autre. Par conséquent, il faut utiliser les cartes de l'époque. Et moi, quand Nicolas va d'un point à un autre, je suis ce parcours sur des cartes de l'époque. Quelquefois sur le plan de Turgot, mais le plan de Turgot est un petit peu antérieur à mes romans. Et en plus, le plan de Turgot donne une impression lisse de la ville, ce qu'elle n'avait pas en vérité. Que le plan de Turgot voulait montrer une ville très très bien ordonnée, superbe. Alors c'est intéressant parce qu'on peut tout de même compter le nombre d'étages dans une rue, des maisons, il y a une précision extraordinaire. Mais il y a des plans qui sont, du point de vue, je dirais, cartographique, plus précis, comme ceux de la Grive ou d'autres, qui permettent vraiment de... Et alors en plus, vous êtes obligé de vérifier les choses de manière très précise parce qu'il n'y a pas encore, ce n'est que vers les années 80, et même au cours des années 80, qu'on va mettre des numéros aux rues. Donc, on ne sait pas donner une adresse exacte. C'est toujours en face la rue des Chartreux, à côté du marchand limonadier. Bon, il y a toujours des indications. Que j'ai retrouvé d'ailleurs en Afrique, où il n'y avait pas de numéro. Je me souviens dans mon premier poste à Kinshasa, au Zaïre. Alors, on disait... donner rendez-vous pour un dîner. Alors, vous savez, ma maison, vous allez jusqu'au carrefour Mercedes, vous tournez à droite, et puis là, il y a la minoterie machin, vous tournez à gauche, et peu après, vous verrez, il y a une boulangerie, alors c'est juste trois maisons après. Mais c'est exactement la manière dont on peut distinguer les endroits au XVIIIe siècle.
Il y a donc le pari des odeurs, on voit les transports, les encombrements en transport, et Nicolas Le Floch ou ses personnages sont des observateurs qui nous livrent ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Ça, c'est un procédé de narration qui est assez intéressant.
Oui, comme nous vivons avec eux et qu'on ne quitte jamais le personnage de Nicolas, évidemment, les impressions de Nicolas sont les impressions du lecteur. Et c'est vrai que les informations qu'on peut avoir dans les mémoires du temps sur les visiteurs ou voyageurs étrangers sur Paris sont très mêlées. Suivant l'endroit par lequel vous arrivez à Paris, vous dites quelle ville magnifique, et puis par d'autres endroits, les gens disent mais c'est immonde, quelle ville épouvantable. Et c'est vrai que c'était une ville très sale, avec beaucoup d'odeurs et très, très prégnantes. C'est vrai que les rues n'étaient pas encore pavées, que le ruisseau coulait au milieu de la rue, que l'on reconnaissait la qualité d'une personne à ce qu'elle avait ou des bas blancs ou des bas noirs, car si vous aviez des bas blancs, c'est que vous aviez suffisamment de moyens pour rouler en voiture, et si vous aviez des bas noirs, c'est que vous marchiez à pied, et que par conséquent, les taches de cette boue fétide qui était celle de Paris pouvaient moins tacher, moins se voir sur les bas. D'autre part, vous savez que le bétail était abattu à l'intérieur de la ville et que les intestins, le sang coulait dans le caniveau du central pour se répandre jusqu'à la Seine. Donc il y avait vraiment une situation d'hygiène extraordinaire, des rats en quantité incroyable. Point de latrine, on commence à imposer dans les constructions des lieux ad hoc, mais vraiment, quelquefois la question m'est posée, auriez-vous aimé vivre au XVIIIe siècle? Je dis non.
Alors, Nicolas, comme tous les personnages de la série, ont vieilli. Là, il apparaît mûr, on pourrait dire au sommet de son art, de sa réussite, mais il semble usé, fatigué, un peu désireux de prendre sa retraite, de se retirer sur ses terres, son château de Reuil. Est-ce qu'il va nous abandonner ou est-ce qu'il va continuer?
Non, mais comme chacun d'entre nous a une période de sa vie, il éprouve une certaine lassitude. Et il éprouve une certaine lassitude parce qu'il s'aperçoit que la justice n'est jamais rendue, au fond. Beaucoup des coupables qu'il dévoile ne en réchappe. Et puis, il y a toujours le sentiment d'être manipulé. Et dans ce roman, il l'est particulièrement par Sartine et même par Vergène. Et quand Sartine lui dit « Nicolas, la surface des choses », il ne connaît que la surface des choses. Il est un instrument dans les mains du pouvoir et il éprouve une certaine fatigue. Et donc, il a envie d'aller faire le point un peu auprès du libre océan, comme il dit.
D'accord. Au travers de propos tenus par Bourdeau et analysés à certains moments par Nicolas Le Floch, dont vous dites qu'il est un homme tenaillé à tout instant par les convulsions du siècle, on sent poindre donc des signes annonciateurs de la révolution. C'est flagrant. Il y a trois passages dans le livre qui sont importants. On va en lire un. Il songea à certains propos de Bourdeau sur la souffrance de ceux qui aspirent à briser les infranchissables barrières établies entre les divers ordres d'une société où une personne n'était pas égale à une autre. « Si les puissants nous semblent grands, ajoutait-il, c'est qu'on nous maintient à genoux. »
Oui, Bourdeau est quelqu'un qui, par son histoire personnelle,
fait le contrepoint,
a une vision des choses un peu différente de celle de Nicolas. Alors Nicolas n'est pas contre l'égalité telle qu'on la proclame à l'époque, mais simplement il éprouve l'égalité comme le lui a appris le chanoine Le Floch, c'est-à-dire chacun est égal devant Dieu. Bon. Et alors il entend autour de lui les critiques, mais moi j'essaye d'écrire sans savoir que la révolution va arriver, en essayant de montrer comment peu à peu des êtres pris dans le courant du siècle marchent vers cet événement. Et donc, il entend des choses, il en approuve certaines, il n'en comprend pas peut-être toutes, mais peu à peu, eh bien, autour de lui, les choses s'agitent.
La fidélité au roi aussi et l'esprit chevaleresque qui l'anime. Merci à tous. Merci à vous, Jean-François Parot.
Merci à vous.
Prêtez à l'exercice.